Comme une quarantaine de lieux culturels, le Carré Magique à Lannion est occupé par les intermittents du spectacle, les travailleurs précaires du Trégor pour une durée indéterminée. Philippe Le Gall, le directeur du Carré Magique, est aujourd'hui mon invité. Bonjour monsieur Le Gall.
Bonjour.
Alors quand est-ce que vous avez appris que le Carré Magique allait être occupé ?
Ah ben c'est très simple, lorsque toute une délégation d'occupants est arrivée donc devant notre entrée, c'est à ce moment que l'on a compris qu'ils souhaitaient occuper le lieu.
Et vous connaissiez ces personnes ?
D'anticipation, donc, mais c'est logique, c'est la logique d'une occupation.
Et vous connaissiez ces personnes qui sont venues ?
Oui, dans la mesure où ce sont des artistes, c'est beaucoup le secteur de la musique ici, en tout cas, qui a pris en charge cette cette occupation.
Oui.
Donc accompagné du SAMTAC CGT, du SBAM CGT. Donc c'est à la fois le monde syndical très présent dans nos métiers, en correspondance avec notre secteur, et puis vous l'avez dit, les précaires, des membres de coordination. Donc c'est un mouvement qui a vocation à la fois poser la problématique liée au spectacle vivant directement, puisque c'est l'occupation d'un théâtre, donc c'est la question de la réouverture des salles, de la reprise du travail pour ces artistes et ces techniciens, mais c'est aussi une question qui va au-delà, puisque c'est tout le questionnement sur ce qui se joue aujourd'hui dans notre société, et une occupation, c'est aussi prendre le temps de la réflexion, du partage, du dialogue, des échanges, et donc c'est un peu une occupation comme une agora, mais attention, c'est pas une agora où il y a 500 personnes, pas du tout, puisque vous êtes dans un établissement qui reçoit du public, il y a une responsabilité sanitaire aujourd'hui, eu égard à la situation que l'on connaît toutes et tous, donc forcément c'est une présence à minima dans les murs, plus large à l'extérieur des murs, s'il y a des temps de réflexion partagés, mais c'est en tout cas une occupation dans le respect des conditions sanitaires aujourd'hui qui doivent être mises en œuvre dans un théâtre comme dans un commerce, quel qu'il soit. Donc nous sommes extrêmement vigilants là-dessus.
Alors la situation est compliquée, on le sait, pour les salles de spectacle et pour le monde de la culture. Est-ce que vous soutenez, vous, cette occupation ?
Ah bah totalement. Totalement pour deux raisons. D'abord parce qu'un théâtre, c'est une maison ouverte aux artistes et au public. Donc c'est important de rappeler que le public est le grand absent, mais que nous y pensons en permanence, puisque pour les artistes, c'est un crève-cœur de travailler sans perspective, et pour un théâtre, il en va de même. Donc pour le public, c'est aussi une sacrée interrogation. Qu'est-ce que c'est que cette vie aujourd'hui sans pouvoir écouter de la musique vivante, sans pouvoir assister à des pièces de théâtre, à des spectacles de danse, de cirque? Donc c'est vraiment une période très difficile, et oui, nous soutenons cette occupation parce que c'est une maison d'artistes et parce que c'est aussi un endroit où se jouent aussi les questions de la société aujourd'hui. C'est-à-dire que quand la réouverture sera un tel enjeu, et pourquoi cette fermeture qui dure et perdure, quelles sont les raisons objectives ? Pourquoi fermer des lieux dont on considère, nous, évidemment, mais pas que nous, parce que nous ne sommes pas propriétaires de ces lieux. Le théâtre est un espace public, je l'ai dit, qui appartient aux artistes, mais qui est aussi qui n'a de sens que s'il y a des publics. Donc c'est vraiment cette conjugaison de ce silence entretenu aujourd'hui dans la société, cette impossibilité de se croiser, de se poser, de discuter, d'assister, de ressentir des émotions. Donc oui, ça nous interpelle, effectivement.
Et alors, quelle est la principale revendication ?
Ah ben, elle est double, c'est-à-dire la principale revendication du point de vue des artistes et des techniciens, c'est reprendre le cours de leur vie, c'est-à-dire pouvoir retravailler, pouvoir redonner un sens à leur vie. Qu'on s'entende bien, les artistes, les techniciens, ce ne sont pas des assistés. Il y a un système qui s'appelle le régime de l'intermittence, qui est un système de compensation des périodes non travaillées, puisque ce sont des emplois qui sont par définition précaires, ce ne sont pas des contrats à durée indéterminée. Donc l'enjeu premier, c'est le retour du travail. Et pour pouvoir travailler, il faut que les salles rouvrent. Si il n'y a pas de réouverture des salles, des cinémas, des musées, organisée. C'est tout un pan de la société qui est à l'arrêt. C'est vertigineux, en fait, puisque nous sommes en Bretagne. Bretagne, terre de culture, de grande diversité. Vous imaginez les musiciens de Fest-Noz, depuis le mois de février-mars 2020, ils n'ont pas pu jouer.
Ouais.
Donc c'est profondément vertigineux, c'est un abîme pour eux. Donc effectivement, il faut avoir en perspective ces fragilités-là. Et quand je dis qu'un musicien de Fest-Noz ne peut pas jouer, c'est aussi des populations qui sont privées de ces moments qui ont quand même du sens en Bretagne. C'est là, pour le coup,
voilà, oui, c'est
vraiment
clair.
La Bretagne.
Ça fait un an que la situation est catastrophique pour le monde de la culture. Que demandez-vous ? Vous êtes réunis, je crois, entre les directeurs, avec les directeurs des autres salles. Qu'en est-il ressorti de ces réunions ?
Il en ressort à la fois beaucoup d'amertume, et ces réunions ont une vertu, et c'est pour ça que c'est important, le sens du collectif et d'être ensemble, c'est que ça permet de redonner de l'énergie aux uns et aux autres, parce que seul dans son coin, on finit par se morfondre. Et c'est vrai que pour les directions d'établissement, alors là il y avait présent dans nos murs des directrices et des directeurs de Bretagne et des Pays de la Loire, deux lieux qui sont à la fois des lieux associatifs, mais aussi des théâtres de ville. Donc ce sont des fonctionnaires publics territoriaux, et ils ont aussi rappelé que les élus sont très attentifs à la situation. Beaucoup d'élus soutiennent ces mouvements, se posent des questions sur la fermeture de leurs salles, sur la mise à l'arrêt de leurs festivals, ces rendez-vous publics. Donc les partenaires culturels du Grand Ouest ont publié une tribune la semaine dernière. Ouvrir pour retrouver le goût des autres, parce que oui, nous sommes des êtres profondément sociaux, et on ne peut pas rester comme ça à se regarder en chien de faïence, rivés derrière nos écrans. C'est juste insupportable sur la durée. Ouais. Donc c'est vrai que le message, il est là, c'est comment se mobiliser. Nous avons fait du chemin, nous avons été très loin, c'est-à-dire que tout comme les commerçants, puisque nous n'opposons personne, les bars, les restaurants, il nous importe profondément que ces lieux, ces établissements puissent rouvrir. C'est-à-dire que tous les secteurs ont travaillé, ont fait des propositions, ont établi des protocoles. Nous, pour la culture, en tout cas, nous avons positionné des stades zéro, tout est fermé, confinement total, stade 6, c'est la vie comme elle va. Mais entre 0 et 6, il y a 1, 2, 3, 4, 5.
Ouais.
Donc, de 30% de jauge à 65% de jauge à 100% de jauge, des masques, des fauteuils séparés, un fauteuil, deux fauteuils, un rang, deux rangs. Enfin, on a tout posé sur la table. Toutes les colonnes sont remplies, sauf une. La principale, c'est quels sont les critères pour passer du stade 0 à 1, à 2, à 3, à 4, à 5. Et ça, c'est le travail de l'État, du ministère de la Santé, du ministère de la Culture, de l'Économie et des Finances, puisque désormais, les réunions sont interministérielles,
ouais.
Et c'est bien. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps ? Ça fait depuis le mois d'octobre que nous sommes sur ces protocoles. Il y a des échanges réguliers quasiment toutes les semaines avec le ministère de la Culture. Depuis le 19 janvier, le dialogue s'est arrêté sur un tableau complet avec une colonne en moins. Et depuis le 19 janvier, nous attendons que la colonne soit complétée. Il y a de nouveau un rendez-vous technique la semaine prochaine où on nous demande si nous pouvons travailler avec un couvre-feu à 18h, si nous pouvons travailler avec une jauge à 30%, sachant que le monde de la musique n'a pas les mêmes problématiques que celui du théâtre public, que nous sommes prêts à aller très loin, parce que c'est important pour la jeunesse de retrouver le spectacle, c'est important pour tout le monde. Donc même à 30%, nous sommes prêts à ouvrir un théâtre. Pour les producteurs privés de musique, c'est un peu plus délicat. Donc oui, il y a des discussions, des concertations.
Il y a des réponses de Madame Bachelot ?
Madame Bachelot répond qu'elle ne peut donner de date.
Bon,
nous l'entendons. Après, pour justifier le fait que nous soyons fermés, parce que c'est vraiment une sacrée question, les librairies ont été jugés essentiels, et c'est heureux, nous en sommes ravis. Mais comment se fait-il qu'on ne puisse pas rentrer demain, c'est-à-dire jeudi 18 mars, dans un cinéma,
ouais.
Parce qu'on s'assoit, on regarde un écran, et à ce que je sache, il n'y a aucun danger. De l'écran ne va rien surgir. Il n'y a pas de comédien en chair à un os, pas de danseur, donc il n'y a pas de risque. Dans un musée, c'est pareil. On rentre par une porte, on sort par une autre, on ne fait pas demi-tour. On a un circuit où on peut s'arranger pour qu'il n'y ait jamais plus de 2 personnes, 3 personnes dans une salle. Enfin, non.
Alors que dans les transports en commun, on est collé.
Ah bah oui, c'est collé serré, oui. Et dans les théâtres, c'est pareil. On a tout un protocole. Nous avions rouvert à l'automne. Nous étions en zone verte, donc nous avions une jauge pleine et entière, masquée, bien entendu, avec du gel hydroalcoolique, avec des sens de circulation. Il n'y a pas eu de casse. Donc quand la ministre dit « Oui, d'accord, j'ai compris, le problème n'est pas dans la salle », il peut être sur le plateau, mais d'accord, je vous accorde que vous savez travailler en amont, opérer les tests, mais vous
ça se passe bien à la télé, donc.
Oui, si vous venez, vous êtes entre amis, donc vous allez avoir envie de discuter. Les bars et restos sont fermés, donc ça va être sur le parvis du théâtre. Quand elle a dit que oui, ça génère un flux de 40 000 personnes dans la rue quand il y a une soirée de spectacle à Paris, moi j'ai juste envie de dire, mais Paris n'est pas la France. À Lannion, à Landerneau, à Ploërmel ou ailleurs, je veux dire, on va pas générer un flux de 40 000 personnes sur le parvis d'un théâtre, même à Brest, même à Rennes. Donc, si nous pouvions aussi avoir une considération à l'endroit des spécificités régionales, ce serait aussi une forme d'intelligence collective. Faisons confiance également aux élus de terrain. C'est quand même terrible, les maires sont ils sont spectateurs, ils ne peuvent pas agir. C'est compliqué quand même. Or, nous savons qu'en France, la culture, c'est d'abord une histoire locale. Ce sont les collectivités territoriales qui sont les premières à subventionner l'art et la culture en France. L'État donne le cap, si l'on peut dire, induit la notion de scène labellisée. Nous sommes pôle national cirque, comme le Fourneau est centre national des arts de la rue et de l'espace public à Brest, comme le Quartz est scène nationale, le Théâtre national de Bretagne est un centre dramatique national à Rennes. Donc, il y a des labels d'État, mais même pour un label d'État, les financements sont croisés. Donc, la place des élus territoriaux est essentielle, fondamentale. Nous sommes dans un dialogue avec eux, mais c'est vrai que tout le monde est là à attendre que la décision parisienne soit prise, et elle est prise dans une cellule de crise, voire c'est le fait, la responsabilité d'une seule personne, le président de la République. On peut l'entendre, mais c'est difficile à comprendre dans une démocratie aussi structurée, historique que la France. Il y a un cadre qui s'appelle l'Assemblée nationale, le Sénat, il y a des conseils régionaux, des départements, des collectivités. Donc on peut travailler de manière intelligente. Et c'est ce que nous souhaitons, nous revendiquons. Vraiment, tous les acteurs de la culture sont responsables. Petit festival, grand festival, bénévole ou professionnel au sens salarié du terme. Donc il y a une compréhension de la responsabilité, une attention très forte au public, et nous sommes dans cette logique-là. Voilà. Alors, donc, rouvrir les théâtres, oui.
Alors hier, le préfet des Côtes d'Armor a pris des nouvelles décisions suite aux variants. Est-ce que aujourd'hui vous avez mis tout été annulé jusqu'au 30 avril? Est-ce que vous avez peur que cette date soit repoussée?
Alors cette date n'a rien à voir avec ce qui a été posé effectivement par le préfet des Côtes d'Armor hier, puisqu'elle est antérieure. Alors 30 avril, parce que il y a les vacances d'avril, donc c'est vrai que notre dernier spectacle d'avril était le 19.
Ouais.
L'enjeu pour nous, c'est de pouvoir accueillir du public en mai et juin. Nous avions prévu des rendez-vous avec le cirque, sous chapiteau, ouais, en salle, dans l'espace public. Alors là, pour le coup, le carré magique est sur les trois endroits où on peut voir converger du public, dans un théâtre, sous une toile de chapiteau et dans un espace public. Donc je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il s'en sera demain. Si nous sommes dans une possible réouverture au mois de mai, ce sera heureux, même à 30%, je l'ai dit.
Ouais.
Chapiteau, c'est plus délicat, mais c'est possible. les conditions sanitaires seront respectées, la sécurité sanitaire pour le public sera garantie puisque nos jauges seront moindres, et sous chapiteau la question de la, comment dire, de la circulation de l'air ou autre, le chapiteau s'y prête puisqu'on peut, comment dire, relever les jupes du chapiteau, l'air va circuler et ensuite le risque est moindre, en tout cas dans les consignes données. C'est vrai que c'est une question qui se pose pour les chapiteaux, et sur l'espace public, bon, on est en plein air. Donc nous avons prévu d'ouvrir en mai-juin, nous espérons aussi proposer des spectacles en juillet, mais là au moment où je vous parle, je n'en sais rien, ouais. En fait.
On commence à avoir quand même l'impression là, certainement, que le président de la République va prendre des décisions pour l'Île-de-France. On a l'impression vraiment que là, on va faire vraiment par région, hein. Il faut savoir que l'Île-de-France, c'est quand même 12 millions d'habitants, donc une bonne partie de la France.
Oui, je pense que nous ne sommes vraiment pas dans la situation de l'Île-de-France, quand bien même ce virus dit breton interpelle. Néanmoins, nous ne sommes pas dans le même champ de l'urgence sanitaire, en tout cas en termes de saturation des réanimations des hôpitaux. Nous avons conscience qu'il faut être extrêmement vigilant et cette saturation peut être problématique, c'est sûr. Donc nous ne sommes pas des fous furieux, nous sommes respectueux des cadres sanitaires. Mais c'est vrai que, bah oui, je comprends le stress, le questionnement, parce que les chiffres ne sont pas bons. Plus de 4200 personnes en réanimation, ce n'est pas vraiment pas positif. 29 000 cas recensés, en tout cas hier, ce n'est pas non plus un bon signe. Néanmoins, nous avons fait la preuve et à ma connaissance, bah oui, les marchés fonctionnent, les commerces fonctionnent et vous l'avez dit, le transport en commun fonctionne. Donc nous sommes, nous, persuadés qu'il n'y a pas plus de risques dans un théâtre qu'ailleurs, voire beaucoup moins de risques, puisque nous sommes extrêmement précautionneux. Donc c'est important. C'est important pour cet espace qui est l'espace mental aussi. Il faut bien que la poésie revienne, que ce monde de la surprise, de l'émotion, nous puissions le partager ensemble. Sinon, à quoi sommes-nous réduits? Moi, je n'imagine pas ma vie réduite à regarder un écran.
Non, ça c'est sûr. Une dernière question, Monsieur Le Gall. On va parler de la programmation. Vous arrivez justement à prévoir une programmation, à reprogrammer les artistes, parce que forcément, y en a qui n'ont pas pu venir, qui vont vouloir certainement revenir aussi, et puis d'autres que vous avez prévus plus tard. Ça va être compliqué.
Oui, c'est très complexe, c'est douloureux parce que c'est un maelstrom. C'est-à-dire que au printemps, nous avons fait le choix de reprogrammer tous les spectacles. Nous arrivons à l'automne 2020, patatras. Que faire? Est-ce qu'on reprogramme des spectacles annulés deux fois? Je dirais que c'est au cas par cas, en fonction de l'histoire du spectacle, de l'économie de la compagnie, de nos possibilités. Il y a des projets qui devaient naître qui ne sont pas nés, il y en a qui arrivent. C'est un mix, sachant qu'on ne pourra, et là ça vaut pour tout le monde, on ne peut pas imaginer faire deux saisons en une, ce n'est pas possible. Donc il va falloir étaler, comment faire en sorte qu'il y ait le moins de casse sociale, de détresse humaine dans l'histoire. C'est un sacré exercice qu'on n'avait jamais imaginé. Nous sommes le secteur de l'art, du spectacle vivant en tout cas, c'est aussi une économie de flux, donc c'est un cycle, ça ne s'arrête jamais, puisque aux saisons succèdent les festivals d'été et de nouveau les saisons. Là, tout est à l'arrêt, donc évidemment, l'effet d'embouteillage, il est juste vertigineux, et l'automne s'annonce très dur sur le plan social, très dur sur le plan des calendriers. Il y a des spectacles qui n'auront pas vu le jour et qui ne connaîtront pas le public, et ça, c'est extrêmement violent pour les artistes, pour nous, mais tout d'abord pour les artistes et les techniciens qui sont aux avant-postes, bien sûr.
Et qui demande qu'une chose, que tout reparte comme avant. Eh bien, j'espère en tout cas, Monsieur Le Gall, qu'on aura l'occasion de se reparler pour parler culture et programmation du Carré Magique à venir.
Ce sera avec grand plaisir.
À bientôt, monsieur Legal. Très bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.